It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi kobena.
It's okay. You know, it's okay.
L'histoire que nous allons vous conter aujourd'hui est celle d'un homme qui s'est battu toute sa vie contre l'oppression, l'injustice, la ségrégation et la bêtise humaine. Sa seule arme de défense fut la musique, accompagnée d'un discours tranché, direct et sans concession. Nous avons eu le privilège de pouvoir le rencontrer chez lui, à Paris, où il réside depuis de nombreuses années. Et en toute simplicité, il a accepté de répondre à nos questions en faisant l'effort de converser avec nous en français, même si certains sujets sérieux, douloureux, voire personnels, le ramenaient instinctivement vers sa langue maternelle, l'anglais. Car notre invité naquit à Fort Lauderdale, en Floride, aux États-Unis, il y a 78 ans. Voici l'épopée vertigineuse du saxophoniste Archie Shepp. Respectueux de ses aînés, Archie Shepp a très vite réalisé que la musicalité de ses pères portait en elle une forme de rébellion silencieuse, celle de la communauté afro-américaine, contrainte de se battre au quotidien pour trouver sa place dans une société blanche toute puissante. Ce simple constat conditionnera l'état d'esprit et le répertoire d'Archie Shepp. Bien qu'il fût un peu hâtivement identifié comme un frondeur, adepte du free jazz, c'est d'abord le blues qui animera la force expressive de ce musicien hors norme. Car le blues est la matrice de toutes les cultures noires. Le blues est un cri, un récit, une émotion, une émanation de la destinée tragique des esclaves africains parvenus contre leur gré aux Amériques il y a 4 siècles. Le blues est l'ADN culturel des citoyens noirs aux États-Unis. Archie Shepp le vit dans sa chair et dans son âme.
Ma vie, c'est le blues, je crois. J'ai appris le blues de mon père et ma mère. Ils ont cherché vraiment pour survivre. Ils avaient souffert beaucoup, les deux. Ils n'avaient pas beaucoup d'éducation dans le sens formel. Donc, mon éducation, c'était vraiment dans le blues. J'ai écouté Mozart, par exemple, en université, parce que c'était jamais joué dans mon voisinage. C'était pas musique pour des Noirs. Mon éducation, avant l'université, avant une certaine sophistication imposée, c'était tout à fait, ça vient de la tradition orale. Parce que c'est une musique qui vient d'esclavage. expérience, la souffrance de mes peuples, pas seulement aux États-Unis, mais partout dans cet hémisphère. Ils étaient noirs, ils ont créé une musique spéciale. C'était la seule chose qui me séparait des autres. J'avais toujours beaucoup blues. Même Miles, il a fait un commentaire dans un entretien avec Lynyrd Skynyrd et Blindfold. Il a dit, le saxophoniste, il a beaucoup de rythme. Mais même, il n'aimait pas du tout ma musique. Mais cela, il a dit dans un podcast. Et c'était pour moi un vrai compliment. C'est la seule chose que nous avons qui reste authentique. Le blues reste pur, reste un défi.
Bien qu'il soit un explorateur, un créateur à l'affût de la nouveauté et de l'originalité, Archie Shepp a de la mémoire et sait se souvenir des personnalités ou événements qui ont façonné son épopée. En réinterprétant récemment en big band les compositions de l'album Attica Blues, paru à l'origine en 1972, il nous suggère insidieusement de rester vigilant face aux dérives sociales et raciales de notre temps. Car Attica Blues fait tristement écho aux exactions policières constatées aux États-Unis ces derniers mois. Il y a 40 ans, la prison d'Attica dans l'état de New York devint en quelques heures le symbole de la confrontation violente entre blancs et noirs. Le 21 août 1971, l'un des leaders des Black Panthers, célèbre mouvement de contestation révolutionnaire afro-américain, meurt dans la cour de la prison de Saint-Quentin en Californie dans des circonstances très mystérieuses. Les autorités auraient, dit-on, été alertées d'une tentative d'évasion et auraient exécuté le fuyard sans sommation. Bien que cette version n'ait jamais été vérifiée, c'est en toute impunité que les forces de l'ordre réduirent au silence un opposant trop gênant, George Jackson. Une semaine plus tard, 800 détenus de la prison d'Attica à l'autre bout du pays lancent une action de protestation contre leur geôlier en revendiquant des conditions humaines de détention. Immanquablement, la tension monte et la situation dégénère.
Well, we're gonna die here in Attica, today or tomorrow, and we actually get together. Get our people together and unite.
The people in here are treated like dogs. Not only the black, the Puerto Rican, and the white. And we're going to get what we planned, or we're going to die trying.
Yes, all these dogs up there with all those rifles are trying to kill us. We're tired of being beaten. We're tired of being oppressed. We're going to get this if we all have to die. All of us.
Devant l'implacable intransigeance des autorités, les prisonniers décident de faire pression en prenant en otage plusieurs fonctionnaires de la prison d'Attica, mais le gouverneur de l'État de New York s'en moque. Il envoie l'armée qui a l'ordre de tirer à volonté. Bilan 39 morts, dont 10 gardiens de prison. Un rescapé de cette boucherie, Frank Big Black Smith, se souvient.
We knew that they were going to come in, but we never knew that they were going to come in that way.
Nous savions qu'ils allaient intervenir, mais nous ne pensions vraiment pas qu'ils allaient intervenir de cette façon. Nous pensions qu'ils allaient se contenter de nous donner des coups. Mais quand nous avons vu arriver les hélicoptères et qu'ils ont envoyé les gaz asphyxiants, j'ai compris qu'ils allaient nous tirer dessus et allaient réprimer de manière très violente notre insurrection.
You know, then I knew that they were really coming in there in a violent, violent way.
Le reporter de la télévision locale, John Johnson, est lui-même sans voix à l'issue de cette journée dramatique.
C'est une awful thing. William Kunstler has said that people are dying in there. And
c'est dur à dire, mais il y a des gens qui meurent ici. Et veuillez m'excuser, mais je ne parviens pas à commenter cette horreur.
I'm gonna cut this off.
Les hélicoptères tournent toujours au-dessus de nos têtes et les autorités appellent les insurgés à mettre les mains sur la tête. Je ne sais combien ont péri à l'intérieur de cette prison et j'en suis bouleversé. C'est vraiment malheureux ce qui se passe ici. Après ce qui s'est déroulé dans cette prison d'Attica, la situation des Noirs dans ce pays ne sera jamais plus la même. Cet épisode désastreux de l'histoire américaine a profondément marqué Archie Shepp. Il avait alors 34 ans et sa conscience politique s'affirmait chaque jour davantage. C'est avec la sagesse de l'artiste aguerri et du citoyen engagé qu'il analyse aujourd'hui les conséquences de ce drame effroyable.
À mon avis, la tragédie de Attica et en fait de cette époque, il y avait beaucoup de choses terrible dans des prisons qui existent même aujourd'hui. C'était plutôt une chose politique. Attica, c'était un souvenir, un garde de mémoire de quelque chose de terrible. J'ai essayé de commémorer en musique. I tried to recreate in music what was in fact a tragedy. La mort de George Jackson, il y a des gens qui disent qu'il a été assassiné. Tout de suite après, il y avait des prisons comme Attica, plusieurs aux États-Unis. Il y avait des révoltes de prisonniers. Attica était spécial, exceptionnel, parce que là, il y avait 39 personnes mortes. Pas seulement des prisonniers, mais aussi des gardiennes de la prison. Et c'était scandaleux parce que Nelson Rockefeller, un des plus riches de tout le monde, il était aussi le gouverneur de New York, il a décidé de prendre sa vacance le jour de la massacre. Dans un sens, il était responsable, même. C'était le résultat de l'insouciance de la société vis-à-vis des gens qui souffrent dans des prisons, des gens qui sont marginalisés. Mais c'était important parce que c'était un wake-up call pour tous les Américains, un signal pour tout le monde que ces gens deservent, méritent. Consideration, tout à fait.
I want to talk about, you know, that ideology at this point. And it has to be an ideology of revolutionary nationalism. See, this country fosters the idea of competitive individualism. In other words, you know, like he divides people. He divides. He tells you, be an individual, do your own thing. You cannot do your own thing if your own thing is not the right thing. You cannot do your own thing. You have to understand one of the most counter-revolutionary things that came out last year was the whole slogan of do your own thing. This is what black people have been doing for years. Now, if your own thing does not happen to be the thing that's right for the struggle, then it's incorrect. You can't do your own thing. See, people run around here talking about, I'm gonna do my own. Here, the junkies standing on the corner nod and say, I let you do your thing, let me do my thing.
On parle d'Attica en 1970. cette oppression s'est continuée. Il n'y a pas beaucoup qui ont changé point de vue des prisons et pas beaucoup qui ont changé point de vue de pauvreté et la destruction de la famille dans le ghetto. Par exemple, en Chicago, la ville d'où vient notre président, je crois que c'était en 2012, il y avait plus de jeunes tués dans la rue qu'en Irak dans l'année 2012, dans le pays le plus riche du monde. Et ça continue. Il faut que, en fait, le gouvernement s'engage avec des gens qui souffrent, qui sont victimisés par pauvreté, ignorance. Il y a des choses, M. Obama, il a essayé d'aider des gens hispaniques, de trouver leur place dans la société aux États-Unis, mais en même temps, des gens noirs en Detroit, il manque de l'eau. L'État de Michigan, ils ont décidé des gens qui ne peuvent pas payer, ils ne méritent pas d'avoir de l'eau. Il faut payer pour de l'eau. On attend le temps, il faut payer pour de l'air. C'est ça qui me fait inquiète.
Des années 70, un mouvement artistique majeur va se faire jour. Il s'agit de la Blaxploitation. Ce courant culturel propre au cinéma américain cherchait à donner une image plus digne et fière de l'homme noir sur grand écran. Le film Shaft de Gordon Parks en fut un exemple criant. Mais Archie Shepp n'a jamais vraiment cautionné ces clichés qui brouillaient le message revendicatif de la communauté afro-américaine.
J'étais jamais très impressionné par la Blaxploitation. Je trouve que l'histoire des Noirs, c'est pas vraiment rendu par les cinéastes noirs. Gordon Parks, un homme très intelligent, un journaliste, photographe, très important. Il a fait un film avant Shaft, The Learning Tree. Film excellent. Qui expose le racisme dans le sud des États-Unis. Et c'est, en fait, il raconte dans le film, je crois, sa vie, un jeune homme qui était élevé dans ces circonstances. Ce film, malgré ce que c'était un excellent film, il a reçu presque du tout recognition par des Oscars. Je me souviens un film de... fait en Afrique du Sud avec Danny Glover. Excellent film. Ça raconte l'assassination de Ubisé Biko. C'est un excellent film. Ça exprime l'histoire terrible de mes peuples. Mais ces gens ne veulent pas reconnaître des films, des cinéastes sérieux qui sont souvent bloqués. Je me souviens, j'ai écrit une pièce en 1962-3, qui était fait à Broadway. Et des critiques, ils ont dit il y a place pour seulement un nègre par an. I was not the nigger of the year.
Malcolm, my people, dear God.
Même si, avec les années, Archie Shepp est devenu un homme plus sage et réfléchi, ces mots dénoncent toujours les relents racistes des ignorants et simples d'esprit. Il n'acceptera jamais d'être jugé à cause de la couleur de sa peau. Ce combat existentiel a débuté pour lui dans les années 50.
J'étais élevé dans le ghetto, tous mes amis étaient noirs, mais en université, c'était ironique parce que c'était juste au contraire. Très peu de noirs en université. Donc, toutes les filles que j'ai rencontrées étaient blanches. Et j'avais mon premier amante blanche, était une petite Irlandaise. Elle avait un an plus que moi. Une histoire très intéressante, trop longue de raconter, mais une personne très gentille. Et nous étions en train d'aller en ville avec cette fille. On a passé un garage. Et là, il y avait peut-être 10 jeunes hommes, tout blancs. Et nous avons regardé avec une certaine menace. J'ai senti, ils ont dit rien du tout. C'était un calme qui me fait inquiète. Mais on a passé le garage, on est allé au centre-ville. C'était une ville très picturesque, calme. Mais moi, j'étais inquiète parce que j'avais peur que quelque chose va arriver un peu plus tard. Et quand nous sommes en train de revenir à l'université, on a passé le même garage. Sauf que cette fois-là, il n'y a personne. La porte était close fermée. Juste quand on était en face de la garage, tout au coup, la porte de la garage s'ouvre. Et là, il y avait tous les mêmes jeunes hommes. Et ils ont, en chorus, ils ont dit « Nigga! 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 » Et je me souviens ça très bien parce que c'était comme quelque chose dans mes oreilles, le contraire de musique. C'était quelque chose de terrifiant. Et je me souviens cette situation très bien. Même, je peux toujours entendre le bruit de ce mot nègre, la haine derrière ça.
Mama Too Tight, un extrait du dernier album en date d'Archie Shepp intitulé I Hear The Sound, enregistré en public en compagnie de l'Attica Blues Big Band et paru chez Archibald Records, le propre label d'Archie Shepp. Je vous rappelle que vous pourrez applaudir Archie Shepp ainsi que Melvin Van Peebles le 8 septembre prochain à la Villette à Paris pour une création originale imaginée par le groupe londonien The Heliocentrics. Le festival jazz de la Villette se poursuit par ailleurs jusqu'au 13 septembre avec Balaké Sissoko et Vincent Segal, Tony Allen et Robert Glasper, ou encore un hommage à Ornette Coleman disparu cet été par un trio magique The Bad Plus. Et pour terminer, saluons l'initiative du festival Blues sur scène qui se tient habituellement en novembre à Mantes-la-Jolie en région parisienne, mais qui propose déjà jusqu'au 11 septembre un projet intitulé Back to the Roots, dont le but est de donner à des personnes souffrant d'autisme ou de handicaps mentaux la possibilité de s'épanouir à travers la musique en prenant part à des ateliers de fabrication d'instruments de musique, en jouant sur des guitares ou des contrebasses, ou même en enregistrant un album qui sera dévoilé le 18 novembre durant le festival. Évidemment, nous ne pouvons que soutenir ce programme éducatif d'envergure et l'équipe du festival Blues sur scène qui depuis 17 ans œuvre pour la diffusion du blues et des musiques noires en général à travers diverses opérations de sensibilisation tout à fait louables. Plus d'infos sur le site du festival bluessurscène.com. C'est sur ces informations essentielles que nous allons nous quitter. La semaine prochaine, nous aurons le bonheur de retrouver Al Jarreau, que nous avons rencontré le 16 juillet dernier à Montreux, en Suisse, alors qu'il présidait le jury d'un concours de chant organisé par le Montreux Jazz Festival. Il nous en dira plus bientôt. Merci à Nathalie Laporte pour la réalisation militante et rebelle de l'émission du jour. Passez une bonne semaine. On se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants. Le journal.
Time.